J'ai
Qui se
bu
fouette.
une bière au cassoulet de la brasserie Iron à Toulouse. C'est une bière qui s'est pris d'amour pour un cassoulet et ils ont eu un enfant.
Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Occupation, le podcast de reportage qui va à la rencontre des gens qui vaquent à leurs occupations. Direction Nantes aujourd'hui pour le premier d'une série de 3 reportages sur les rives de la Loire. J'avais rendez-vous tout d'abord avec Ben Mahé, il est biérologue. Avec son entreprise La Bière Autrement, il effectue notamment des ateliers à domicile ou dans des bars. Il m'a d'abord accueilli à la brasserie Aérofab où nous avons enregistré l'interview. Ensuite, direction le Bubar dans le centre de Nantes pour un atelier dégustation à l'aveugle, l'occasion d'en apprendre plus sur la bière forcément, mais aussi sur le métier encore méconnu de Ben. Tu es biérologue ou zytologue, on dit les deux ?
On dit les deux.
Est-ce qu'on peut résumer en disant que vous êtes les sommeliers de la bière ?
Exactement, et je vais même te décevoir parce que j'aime pas me qualifier comme ça.
Pourquoi ?
Mais en gros, il y a une sorte de barrière que j'ai mis avec ce job-là, dans le sens où... Alors c'est un peu nébuleux, on va peut-être en reparler, mais dans le milieu de la bière qui est assez jeune en France, il y a des choses qui structurent. D'abord le produit, et après il y a toutes les formations autour, donc pour être brasseur. Et évidemment, il y a ce côté sommelier bière. Alors là, pour le coup, tu as raison, on dit plutôt sommelier bière. C'est plutôt quelqu'un qui va conseiller un public, plutôt que quelqu'un qui va conseiller un brasseur. Par exemple, un œnologue dans le vin, il peut aussi bien faire le taf pour aller conseiller un domaine sur une vinification, sur des assemblages. Mais là, il est plus au conseil du créateur du produit qu'au conseil du consommateur.
Toi, tu fais tout ça en même temps, en fait. C'est plusieurs boulons, hein. Tu peux faire
ouais,
consommateur,
ça, ouais.
Producteur, tout le monde.
Dans l'idée, je me suis toujours... Et c'est pour ça que biérologue ou zytologue, j'aime pas trop le terme. C'est que moi, j'ai pas trop la prétention de me dire que je vais pouvoir apprendre... aux brasseurs à faire de la bière. Et au contraire, j'aime bien boire ce qu'ils font, quoi. Moi, je me suis plutôt positionné dans mon boulot où certains penchants, c'est vraiment de la zytologie ou de la biérologie. Il y en a d'autres, c'est plus vraiment de l'animation. Moi, j'ai fait du bar avant et j'aime bien le propos du entre ton barman et ton brasseur préféré, quoi. C'est-à-dire qu'on va faire le lien entre les brasseurs qui n'ont pas le temps de sortir de leur brasserie. Le public n'a pas forcément le temps ou de brasserie à proximité de chez elle. Donc, c'est ramener la bière dans les lieux où ils vont, donc des bars, des restaurants, des caves, et oui, après, potentiellement, de les amener dans la brasserie. Mais c'est ça, le job. Donc, mon vrai nom de job, ça pourrait être brasseur-animateur ou animateur-brassicole.
Animateur-brassicole, donc pas trop sommelier ? Si, parce que ça y
ressemble un peu. Sommelier, si, mais sommelier, c'est plus sur le taf que je fais avec des restaurants, par exemple. Et c'est clairement pas... Alors, c'est un des trucs que je préfère. Mais c'est clairement pas ce que je fais le plus en termes de volume de travail. Mais c'est trop bien. Enfin, faut que tu t'imagines, faut s'imaginer s'enfermer dans une cuisine avec plein de bières, avec quelqu'un qui connaît hyper bien ses produits, et toi tu connais hyper bien. Tout le monde apprend, tout le monde se tire vers le haut. C'est vraiment kiffant. Je l'ai fait dernièrement sur le salon de bière de Nantes, Nantes sous pression, et c'était un gros kiff. Et je pense que c'était aussi un kiff pour les chefs. Et c'est aussi, ça passe par là, en fait, démocratiser. En fait, mon job, c'est vraiment de démocratiser la bière pour tous les publics. Des gens qui connaissent déjà, des gens qui connaissent pas du tout, des gens qui connaissent un peu. Et c'est ça l'enjeu.
Tu le fais dans des soirées, tu le fais dans des formations, même dans des entreprises parfois. Quand c'est en entreprise, c'est quoi le but ? C'est une sorte de cadeau de l'employeur à ses employés pour de la détente, ou alors ça peut être former des professionnels de la bière ?
Ouais, bah ça dépend de quelle entreprise c'est. Là, pendant le confinement, j'ai fait des formations pour du métier de l'HCR, donc l'hôtellerie-restauration. Donc là, c'est dans le but de connaître le produit pour mieux le vendre, hein, c'est clairement ça. Donc c'est axé sur des connaissances à mettre en œuvre après quand tu bosses. Mais par exemple, une boîte... qu'est-ce que j'avais fait ? Une boîte qui était dans l'événementiel, qui veut juste animer... au-delà du banquet, au-delà du petit toast entre collègues à la fin de l'année, bah ça va être faire une animation. Tu vois ici là, donc on est à la Hulotte à Sautron et on a des ateliers de brassage de bière. Début du mois de décembre, ils avaient fait journée pelleteuse et après ils étaient venus brasser de la bière.
Ok.
Ouais, ça existe.
Qu'est-ce que t'appelles journée pelleteuse?
Eh ben, ils ont fait un concours de conduite de pelleteuse.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
C'est une sorte de championnat de pelleteuse.
Championnat d'Europe
et derrière,
de pelleteuse.
Ils venaient brasser.
Ouais.
Ah oui, donc là, c'est particulier.
Donc, t'as un verre noir, okay. Dégustation à l'aveugle. En vrai, quand on fait une analyse gustative, enfin, une analyse de bière, on va faire une analyse olfactive, gustative et visuelle. Là, on va t'enlever le visuel parce que c'est plus marrant. Et en face de toi, bah, t'as une table, comme une table de roulette ou de poker, ça dépend du point de vue. Et il faut que tu devines, avec ton analyse, du coup, seulement olfactive dans un premier temps et puis gustative, un degré d'alcool, une couleur, donc jaune. On s'imagine que ça va de l'eau jusqu'à la Guinness, si tu veux. Après, il faut que tu devines une saveur dominante, sucrée, acide, salée et amère. Et sur la partie jaune de la table, là, c'est beaucoup plus subjectif. Et donc, c'est à toi de voir. Donc, tu as devant toi sec, boisé, malté, alcool, végétal, café, épicé, rond et fruité. Je te donne un petit exemple. Tout à l'heure, on parlait des bières belges avec la levure banane. Bah, c'est dans fruité. Une bière à la cerise, c'est dans fruité. Et une bière très houblonnée, aromatique, avec des arômes de mangue, d'agrumes, et ben ça peut être dans fruité aussi, parce que les agrumes, c'est fruité.
Une Guinness, par exemple?
Ben, une Guinness, ça fait 4 degrés, 4 degrés 3. C'est noir, c'est plutôt amer, et plutôt aqueux, mais il n'y a pas aqueux. Donc clairement, on va jouer café. On peut jouer maltais pour le côté céréales, même si elles sont torréfiées, on peut le jouer. Et on peut jouer rond, parce que c'est pas forcément rond, ça veut pas dire sucré rond, tu vois, même s'il y a une corrélation. Mais rond, là, pour le coup, la Guinness en pression, c'est tiré avec de l'azote. Donc tu as ce sentiment de rondeur, c'est les bulles qui font ça. Donc la Guinness, ça joue là-dessus. Moi, je suis très partisan de tout le monde a le droit de jouer et faire ce qu'il veut. En gros, tu peux avoir tort ou raison sur le degré d'alcool et la couleur, mais le reste, ça reste quand même assez subjectif.
Là où je t'ai suivi, moi, c'est sur des ateliers que tu fais pour le grand public,
ouais.
dans des bars ou des brasseries. Là, c'est quoi le but, encore une fois? Ça va dépendre toujours du public? Comment ça se passe?
Ouais, en fait, moi, je vois toujours sur le prisme de la bière pour tout le monde, pas d'exclus. D'exclus, pas d'exclusivité, mais de pas de personne exclue. Et c'est entre guillemets à la bière avec un grand B de faire l'effort de venir au public, et parce que il y a un certain élitisme naissant, je trouve, dans la bière, et ça reste un produit quand même que je trouve très populaire, faut que ça reste populaire. Mais il y a quand même pas mal de choses, pour y revenir, et on le verra sur les ateliers, mais il y a pas mal de choses à réapprendre, ou en tout cas à apprendre aux gens, et il y a un gros travail de déconstruction avant, type les couleurs de la bière. Une bière brune, c'est plus forte. Bière chips foot, bière pour les hommes, bière pour les femmes. Tu vois, ce genre de truc. Quand tu connais le produit et que tu comprends un peu comment il est fait, tu te dis ouais, c'est bullshit tout ça en fait. Moi, j'avais construit ma boîte sur deux principes que j'entendais. J'aime pas la bière et c'est pas de la bière. Et ça, quand tu comprends le produit bière, tu te dis en fait, c'est pas possible de dire ça. Comment c'est fait, les multiplicités dans les recettes, dans les gens qui les font et dans les gens qui les boivent aussi. Donc le jeu, c'était de rapporter la bière, pour répondre à ta question, le plus près possible des gens. Et donc évidemment, les bars, ça marche bien, les restos aussi et les caves. Et aussi parce que c'est des lieux un peu plus légers qu'un cours de bière, un cours magistral. Et l'autre truc que je fais, c'est atelier à domicile. Et là, c'est pareil, les gens sont à l'aise, ils sont en pantoufles dans leur salon. Ils dorment sur place, c'est pas négligeable. On parle quand même d'alcool, hein. Il y a un peu aussi une question de santé publique derrière. Enfin, santé publique, hein, c'est un grand mot, mais il y a une question de sobriété, de addiction, de pas maîtrise de soi. Donc, j'ai bossé en bar, donc je sais à peu près de quoi il en est. Et voilà, l'idée, c'est mon prisme. Et comme tu vois, biérologue, zytologue, et ben peut-être qu'ils ont un autre prisme. Mais l'idée, c'est quand même d'apprendre aux gens à déguster un produit qu'on aime, quoi.
Ton métier, si je résume, ça a l'air d'être l'idéal si t'aimes la bière, parce que tu vois tous les aspects, en fait, du producteur au consommateur.
Ouais, c'est trop bien. C'est pas facile de faire le tri, parce que t'as envie de tout faire. Pour te la faire en vite fait, j'ai bossé dans une houblonnière où on fait pousser du houblon. Donc c'est du travail de paysan. J'ai bossé en brasserie. Aujourd'hui, j'ai bossé en bar, j'ai bossé en cave, j'ai bossé en restaurant. et tout le temps avec ce prisme de le prisme de la bière d'abord, c'est le sujet, qu'est-ce qu'on peut faire autour, quoi.
Et donc avec ce côté maintenant en contact avec le public, toi c'est ce que tu préfères, c'est d'être en contact avec le public et le côté découverte?
Ouais. J'en ai marre d'être barman. Ça fait 10 ans que je fais du bar. Tu finis à 3h du mat si tu veux rentrer tôt, mais en vrai tu rentres plus tard. Tu vieillis, t'as un enfant, t'as une conjointe qui en a peut-être un peu marre de pas te voir, ou en tout cas le matin t'es pas là, mais t'aimes quand même le produit bière, les cocktails, les spiritueux, en tout cas, et tous les gens qui le font. Et en gros, c'est l'histoire d'un barman qui avait plus envie de faire du bar, mais qui a réussi à pas trop partir loin du milieu, quoi.
Officiellement, biérologue, vous êtes nombreux en France, parce que je t'avoue que quand j'ai dit à des gens, je vais interviewer un biérologue, ils m'ont dit, ah bon, ça existe.
Je saurais pas te dire. Je sais qu'il y a des formations, et il y en a plusieurs, et il y en a même de plus en plus. Et tu vois, mais moi, j'ai donné des formations à des cafetiers, des restaurateurs. Après, je les ai pas formés en tant que biérologue. Je les ai formés à une journée à apprendre comment c'est la bière. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Une des plus connues, c'est à préciser d'ailleurs, les plus connues, ce sont des femmes. Et il y en a trois ou quatre en tout cas. Il y a Elisabeth Pierre, qui est très connue, qui est là depuis très longtemps, qui fait le Hachette de la bière, par exemple, le bouquin, et qui écrit pas mal, qui a une revue sur les accords mets et bière, donc ça fait longtemps qu'elle bosse là-dessus. Il y a aussi Dorothée Van Hague, qui est pas mal dedans. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a de plus en plus, et aujourd'hui, au-delà d'être un métier à part entière, parce que je suis pas sûr que tu puisses vivre en étant biologue, parce que clairement, il faut que tu fasses des publications, ou écrire des bouquins, ce genre de trucs, mais il y en a de plus en plus, et c'est souvent, ça reste aussi la question, c'est quoi biérologue? Parce que moi, j'ai pas de diplôme, je peux en passer un, j'aimerais bien, mais est-ce que je vais apprendre plus de trucs? Ça, j'en sais rien, je remets pas en question les formations, mais aujourd'hui, mon savoir, ça fait 10 ans, me suffit dans mon job, et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime pas trop me qualifier de biérologue. Mais en soi, je suis capable demain d'aller faire caviste dans une cave, ou barman dans un bar à bière, ou si un jour ça existe, sommelier bière dans un restaurant. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc là, le premier truc qu'on devrait faire, normalement, c'est de regarder la robe, la bulle, la mousse.
Et là, on voit rien. Donc il faut sentir.
On sent. Et là, tu enlèves le nez vite et puis tu essaies de sentir la première note. Qu'est-ce qui te vient en premier? Ça peut être le degré d'alcool et ça peut être la couleur. Un fruit.
Ouais, peut-être un peu fruité, ouais.
Ouais.
Ah, peut-être un peu banane parce qu'on en a beaucoup parlé, non?
Tu sais que les couleurs jouent. Hein. Si je te mets une étiquette rose, tu vas penser à un bonbon.
Ouais.
Et du coup, tu vas dire, ah, c'est plutôt bonbon framboise, bonbon je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a un truc qui se dégage?
Peut-être un peu le côté fruité quand même.
Fruité, ouais.
Ouais, moi je dirais un peu fruité quand même.
Est-ce que entre salé, sucré, acide et amer, tu trouves quelque chose? Je précise que Alain n'a toujours pas goûté. Oh. Il est que sur l'analyse olfactive.
Je dirais sucré un peu, non?
Sucré, ouais.
Ouais, je dirais sucré et fruité.
Ok, on goûte?
Allez. Petit retour en arrière justement. Tu parles de sommelier. Pourquoi la bière et pas le vin? On est en France.
Ouais. Pourquoi la bière et pas le vin? Parce que j'ai commencé dans le cocktail plutôt quand je faisais du bar. Et il y a ce côté assemblage qui était cool. Et le brasseur, il assemble des trucs aussi. Alors le vigneron, il assemble des trucs, mais moins de produits, tu vois.
D'accord.
La bière, c'est de l'eau, des céréales, du houblon et des levures. Ça, c'est régi par le code de la santé publique. C'est ce qui te dit qu'une bière, ça s'appelle bière. Et derrière, bah, tu rajoutes des fruits, des épices, des légumes, des bonbons schtroumpf, de l'étoile anisée, enfin ce que tu veux. Bref, tu vois, le champ des possibles, il est très large, d'où le « c'est pas de la bière » et d'où le « j'aime pas la bière ».
On va y venir, mais plus sérieusement, je voulais juste finir là-dessus, je parlais de vin, il y a un mépris encore des gens par rapport à la bière. Quand tu parles alcool en France, en général, il y a cette sorte de prestige du vin, cette noblesse. Quand on te parle à toi de ton métier, de la bière, est-ce qu'il y a une sorte encore de mépris pour la bière?
Il n'y a pas de mépris. Mais alors déjà il y a de la curiosité pour le boulot parce que je fais le rapport avec le vin. En fait c'est ça aussi qui me qui me saoule et en même temps qui m'aide, c'est de passer par le prisme du vin pour expliquer la bière. Mmh. Parce que culturellement, on est plus dans le vin que de la bière en France. Il n'y a pas forcément de mépris pour te répondre, mais par contre, il y a une hiérarchie. On hiérarchise les alcools. Donc tu vas avoir le vin qui va être au-dessus des spiritueux, entre guillemets, qui va être au-dessus de la bière. Et tu le vois quand tu commandes des choses au restaurant. C'est-à-dire que la bière, souvent, c'est la bière, le truc que tu prends à l'apéro, sans forcément prétention, ni trop réfléchir, alors que ben, c'est au même niveau. Et le vin, on va peut-être plus s'attarder sur la carte, même si potentiellement, et je sais d'expérience, il y a plein de gens qui font semblant, qui se prennent la tête. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que la bière, ça reste léger, mais en ayant quand même des connaissances. On va pas se le cacher, c'est parce que culturellement, en France, on boit du vin, parce qu'on en produit, hein, on est les avant-derniers buveurs de bière en Europe. Donc, tu vas en République tchèque, il n'y a pas ce problème de dénigrement de la bière ou d'hiérarchisation avec d'autres.
Tu rêves d'une carte des bières qu'on te propose d'harmoniser à ton plat, non ?
Ah ouais, j'adorerais. Il y a la fine mousse à Paris qui fait ça, et il n'y en a pas assez. Et en fait, c'est ce que je te disais, c'est il faut passer par une déconstruction avant. Et c'est pas facile, ça prend du temps. Alors que, et c'est ce que j'aime bien faire, tu fais des dégustations à l'aveugle. Et en fait, l'idée, c'est pas de convaincre les gens, c'est juste de réussir à les convaincre d'essayer. Et après, ils arrivent à se convaincre très facilement. Je veux dire, je suis pas là pour dire aux gens, ça c'est bon, bois ça. C'est une canette ou une bouteille qui vaut je sais pas combien, ça vaut 600 euros. Faut que ce soit bon. Franchement, si t'aimes pas, bah t'aimes pas et tu goûteras autre chose. On parlait d'IPA, c'est la grosse tendance. Si t'aimes pas l'amertume, c'est pas grave si t'aimes pas ça en fait. Et comme il y a plein de champs possibles de goût dans la bière, ben forcément, ça va bien se passer. La hiérarchisation, c'est, je t'avoue que c'est un truc qui me gratouille encore un peu.
Tu parles d'IPA, de goût, etc. Donc toi, en tant que sommelier de la bière, ou en tout cas d'expert biérologue, pour progresser, tu dois boire.
Ouais.
Tu bois certaines bières pour entraîner ton palais parfois, tu te testes tout seul. Comment tu fais ? Est-ce que c'est un entraînement quotidien ? Comment ça se passe ?
Ouais, en fait, il y a plein de techniques ou de choses, mais on va pas se le cacher, il faut tester. Le gros travail, ça reste un travail du nez quand même. Je t'ai vu, t'as bu ta bière et t'as pas senti ta bière, par exemple.
Ah, alors c'est vrai que je le dis, on a quand même une bière chacun devant nous, ouais. Donc tu m'as dit que c'est une session IPA.
C'est une session IPA, ouais, et tu l'as pas senti. Et alors... ben, tu vois, c'est des réflexes que j'ai maintenant pour tout. Et je passe pour un con au resto, par exemple, parce que je prends mon assiette et je la porte à mon nez.
D'accord.
Et puis je sens tout. En fait, je pense que de base, j'ai aussi une bonne mémoire olfactive. Par exemple, je me rappelle des parfums des amis de mes parents. Tu vois, ce genre de truc. Et je sais que c'est un truc que j'aime bien et je trouve ça gratifiant de se rappeler olfactivement des choses parce qu'il n'y a que toi qui t'en rappelles et tout.
Et donc là, tu as le nez dans ton verre pendant que je parle. On doit sentir quoi alors dans celle-là ?
Eh ben. En fait, déjà, tu pourrais le sentir de façon différente, c'est-à-dire que, bah, on voit pas, mais en gros, tu pourrais passer ton nez furtivement au-dessus du verre pour avoir des premières notes, et après, tu pourrais carrément plonger ton nez dedans, et comme dans le vin, on n'a pas inventé non plus la roue, hein, mais tu peux remuer un petit peu le liquide pour avoir des choses qui sortent un peu plus. Là, on sent plutôt les agrumes.
D'accord.
Les agrumes un peu verts, voire un peu de fruits tropicaux, même si c'est léger. En gros, des fruits qui sont à la fois acides et sucrés, type un peu mangue, un peu papaye. Et dans les agrumes, je t'avoue que là, ça dépend des jours. Mais là, je suis plus sur le pamplemousse, par exemple.
Tu bois combien de bières par semaine ?
Je bois pas beaucoup de bières par semaine parce que, pour tout avouer, c'est une de mes premières bières du tout le mois de janvier.
Ok, alors je précise, les gens vont l'entendre plus tard, mais on enregistre le 25 janvier.
Et ben voilà. J'ai pas arrêté de bar pour rien. Donc, je bois pas la semaine, j'essaie de me forcer à ça. En vrai, quand je bois des bières pour m'entraîner ou pour goûter, c'est vraiment deux gorgées. Même si j'aime bien, on fait ça aussi un peu avec des collègues, avec des amis ici à la Hulotte. On fait des blind tests, donc on sort des bières, on sait pas ce que c'est. Parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. Parfois c'est du truc qu'on a récupéré en grande surface pour faire la blague. Donc ça, c'est aussi ça l'entraînement. Je bois beaucoup de bières quand je mange. Et ça change aussi la perception. Mais c'est de l'entraînement. Après, en fait, ce qui fait la différence, c'est souvent le vocabulaire qui joue. Parce que y a plein de gens qui potentiellement pourraient dire des choses sur des bières, mais qui n'ont pas forcément le vocabulaire à proprement dit. Et comme je dis souvent, c'est pas grave. C'est juste que bah, l'apprentissage fait que tu reconnais des choses dans certaines bières. Quand tu connais certains styles, tu sais que tu t'attends à des choses. Et là, c'est plus travail de juge de bière plutôt que de combien t'en bois. Mais j'en bois beaucoup trop par rapport au commun des mortels et peut-être pas assez si je voudrais être encore plus expert.
Oui, mais ça fait partie de ton quotidien. Donc, en un sens, t'as pas trop le choix. Il faut que t'affines ton palais.
Non.
De l'autre, alors, question complètement bête. Est-ce que tu recraches quand tu dégustes comme justement le vin ou à la bière, ça se boit et ça se boit?
Bah, la preuve que non.
Voilà.
Parce que j'ai bientôt fini mon verre et Alain, toi, t'as pas trop fini.
Non, pas encore. Mais pourquoi on recrache pas? C'est une question de langue, de papy.
C'est ça, ouais. Bon, après, on peut recracher, hein, quand tu fais, les gens qui font jury sur des concours, ils recrachent, hein, sinon la première bière que tu juges, c'est clairement pas la même que la dernière. Enfin, c'est pas la même, mais en tout cas, tu les juges pas à la même hauteur. On recrache pas parce qu'en général, les saveurs, enfin, les récepteurs de l'amertume sur la langue, ils sont plutôt sur l'arrière. Mmh. Et du coup, si tu recraches pas, tu vas perdre ce côté amertume. La bière étant un produit amer, tu vas perdre un peu cette sensation-là. En soi, c'est pas gênant de recracher, hein. C'est peut-être aussi un peu un prétexte. Mais moi j'aime beaucoup tout le travail autour du nez en tout cas. Ouais. Et là t'es pas obligé de boire et c'est hyper intéressant. Dans les spiritueux en général tu goûtes, tu recraches, mais il y a le côté brûlure de l'alcool et donc vraiment tout le travail se fait vraiment au nez et c'est un peu plus spirituel je trouve. Mais oui, j'en bois sûrement pas assez en ce moment.
Tu l'as dit, il y a le côté quand même alcool dans l'équation.
Ouais.
Donc, est-ce que tu dois justement faire attention? Tu as une recette pour faire attention à l'ivresse quand même? Comment ça se passe quand tu animes une soirée? Je suppose qu'en plus, les gens doivent te dire « Bon, bah tiens, prends un verre avec nous. »
Ouais. Quand j'anime une soirée, à domicile, la question, elle se répond vite, elle est vite répondue, comme dirait l'autre, parce que je conduis. Et donc, en vrai, souvent, je prends le premier verre avec eux, qui est un galopin, et le dernier, ça fait un demi et ça passe. Même si parfois le dernier verre c'est souvent un verre d'alcool, enfin de bière forte. Ouais. Mais bon, en fait je fais la même démarche que je faisais quand j'étais en bar, quoi. J'essaie de faire gaffe au maximum, mais clairement on va pas se le cacher, la plupart du temps c'est compliqué. Et puis parce qu'il y a cette approche de l'alcool c'est pas dangereux, l'alcool c'est convivial, t'es chiant, tu pourrais faire un effort. C'est pas facile comme sujet. Mais c'est vraiment là. Je t'avoue que le fait d'avoir bossé en bar avant, ça rend plus facile l'équation là, là-dessus. Mais je fais gaffe. Vraiment, j'essaie de faire gaffe.
Tu surveilles ta santé, non, particulièrement, je sais pas, des prises de sang ou j'en sais rien, ou du sport
Alors, le sport, j'essaye. J'ai fait STAPS comme formation à la base.
D'accord.
Autant te dire que c'est pas trop de rapport, mais j'essaie de faire gaffe. Clairement, j'y arrive pas, mais j'essaye, et c'est tout le temps dans un coin de ma tête. J'essaie de boire plus d'eau aussi, parce que clairement, quand tu bois de la bière, on sait que ça déshydrate, mais du coup, tu bois pas forcément d'eau à côté. Des trucs comme ça, ça m'empêche pas de boire beaucoup trop sur des soirées avec des copains épicuriens, épicurieux, ou pas du tout d'ailleurs. Et je t'avoue que j'ai beaucoup de copains, vu que je bosse dans la bière, il y a beaucoup de gens qui m'aiment bien aussi, parce que je rapporte tout le temps des bons trucs. J'essaie vraiment de faire gaffe, et c'est ce que j'ai appris du bar en tout cas.
En plus, l'ivresse, normalement, c'est pas ton ami, parce que faut que tu te rappelles de ce que t'as goûté.
Ouais. Et il y a un gros enjeu de mémoire aussi à terme. Donc au début, j'avais un petit carnet. Après, il y a eu une appli que j'ai utilisée. Et maintenant, j'essaye d'y aller au plus facile, c'est-à-dire j'y vais sans filet. Je note plus rien. Par contre, j'essaie de me souvenir plutôt avec mon nez, en fait, à chaque fois.
Ah, je dirais un peu d'acidité, moi.
Ouais, je suis d'accord.
Ouais. Un peu d'acidité, un peu... peut-être un peu malté, non?
Ouais.
Ça aussi.
Malté, c'est céréales en gros.
Ouais.
Donc tu peux avoir, comme tu disais tout à l'heure, je t'ai fait croquer dans les céréales, t'as ce côté un peu farineux, un peu rond, un peu farineux. Malté, tu peux lier à rond par exemple.
Oui.
Ça ne veut pas forcément dire sucré. Mais tu dirais quoi en degré d'alcool?
Je dirais 3-6, ça me semble
entre
léger quand même.
3-6. Ouais. Ouais.
Je dirais 3-6. Donc au final, ça me fait quoi? 3-6.
Ok.
Acide.
Est-ce que t'es déjà plutôt acide? Est-ce que t'es prêt à jouer une couleur dès maintenant?
Ah oui, alors la couleur, c'est vrai. Alors là, c'est dur.
Donc pour couleur, on a genre jaune pâle, jaune poussin, marron, acajou, marron foncé et noir. En
alors,
gros, c'est ça.
Ça me semble clair.
Plutôt clair.
Ça me semble clair. Mais ouais, moi je dirais clair.
Donc plutôt, donc, on peut les mettre entre deux, hein. Genre là.
Ouais, moi je dirais, là, je dirais vers là, ouais.
Donc t'as donc, joué entre jaune pâle et jaune poussin, quoi. Mm. Je t'ai enlevé le jeton de acide, du coup.
Acide, et j'avais
et donc sur la partie, tu mets malté
et rond.
Et rond.
En termes de goût, tu peux pas tout aimer.
Non.
Comment tu fais quand t'aimes pas? Parce que t'es censé quand même être un expert qui présente des bières à beaucoup de monde. Comment tu fais quand il y a un truc que t'aimes pas? Est-ce que tu te forces? Est-ce que... Comment ça se passe?
Alors souvent, je fais une blague. Parce que c'est souvent ce que je fais. Après, j'aime beaucoup de choses, clairement. Il y a deux trucs où j'ai du mal et qui sont viables sur la bière. Il y a un truc que j'aime pas, c'est le sucré salé. Et dans la bière, ça se... par exemple, les barley wine, qui sont des bières, des vins d'orge, sont des bières assez liquoreuses, un peu mielleuses, avec des notes de fruits confits, elles sont souvent fortes. Ça, j'ai du mal. Et j'aime pas la noix de coco. Et il y a des houblons qui donnent des notes de noix de coco. Dernièrement, il y a une grosse mode du sabro et du talus qui sont des houblons qui font coco râpé. Et moi, je peux pas aimer ça, quoi. Mais je les goûte, je les tolère, pas non plus à vomir. Donc je les tolère. J'ai pas d'allergie, par exemple. C'est aussi, tu vois, ça peut rentrer dans ta question.
C'est vrai.
J'ai pas d'allergie. Je suis pas allergique à l'alcool, par exemple. Mais en gros, je les tolère. Et après, l'idée, c'est de pouvoir les décrire à quelqu'un. Et c'est ça aussi tout l'enjeu d'un expert. Et même les cavistes font ça, ou les sommeliers dans le vin. Et après, dans le vin, c'est quand même plus facile. Si t'aimes bien le vin, ça va en termes de goût. Mais je m'entraîne. En fait, il faut évidemment se forcer un peu. Hein. Ça passe par la case tu te forces. Et du coup, tu te bouches pas forcément le nez non plus.
Aujourd'hui, tu penses que tu peux reconnaître à peu près n'importe quelle bière qu'on te ferait goûter? C'est-à-dire, alors quand je dis reconnaître, je suppose que c'est pas comme le vin, tu vas pas me dire l'étiquette et la marque, non?
Non.
C'est
et en vrai, en termes de, si on doit parler de niveau, même si j'ai pas forcément ça, j'ai pas aujourd'hui le niveau pour reconnaître des bières à l'aveugle, même des bières que je connais bien. Clairement, je sais pas ça. Par contre, de reconnaître un style, ouais. C'est-à-dire que si je fais une bonne analyse de la bière, même en verre opaque, donc sans voir la couleur de la bière, je peux reconnaître le style. Et c'est ça aussi l'enjeu, et c'est ça qui est hyper fun d'ailleurs, c'est de reconnaître le style et de te dire waouh, j'aurais jamais pensé que c'était ça, et de te tromper en fait. C'est quand tu te trompes que c'est le mieux. Et on va faire le jeu dégustation de tout à l'heure là, et c'est exactement ça l'idée, c'est de se dire t'as beau connaître, tu peux te tromper. Et pour, comme je disais en intro, tu vois, pour tous les publics, les gens qui connaissent hyper bien la bière, il y en a qui veulent pas jouer à ça, quoi, parce qu'ils ont peur de se tromper. Et c'est tout l'enjeu, et c'est marrant, quoi.
Parce que qu'est-ce qui... Alors, quand tu dis le style, donc on va faire globalement, mais donc ça va être IPA, blonde, ambré, stout...
Alors, on va pas forcément privilégier les couleurs. Alors, en France, on aime bien les couleurs.
Ah oui, alors c'est vrai, ouais.
Les couleurs, ça va pas te donner le goût. Hum. Tu peux pas dire noir, c'est sucré, ambré, c'est salé, blond, c'est amer. Ou plus fort en degré d'alcool. La couleur de la bière, ça donne une idée de la céréale qui est utilisée. Mmh. Et si je prends une céréale noire, ta bière elle est noire. Et si je mets de l'eau salée, c'est une bière noire salée. Et en vrai, tu peux pas le ressentir. Mmh. Donc, si t'achètes tes bières pour les regarder, ça marche. Normalement, tu les achètes pour les boire. Donc, a priori, la couleur, faut pas trop s'y fier. Mmh. On a le fameux blonde, brune, ambrée, blanche. Bah en fait ça on l'utilise beaucoup en France, mais c'est pas une valeur sûre. On utilise plutôt les styles, et là je le conçois, c'est un peu plus chiant parce qu'il y en a genre 150, 180, je sais plus exactement. Mais au moins on est au plus près. Et dans un style, tu vas avoir plusieurs critères, tu vas avoir la couleur, mais tu as aussi le degré d'alcool, tu as l'indice d'amertume, tu as la densité de la bière, donc on va dire sa sucrosité, et puis tu as surtout tout un contexte historique de comment cette bière elle est née et tout. Donc en fait, si tu as le style de la bière, t'as plus d'indices que si t'as la couleur de la bière.
Donc quand tu goûtes, tu peux me donner le style et tu vas me dire si elle est plus ou moins amère, tu peux dire quel type de houblon plus ou moins.
Ouais, les houblons sont assez reconnaissables. C'est un des ingrédients qui est quand même assez... qui a un gros marqueur. En plus, en ce moment, on l'utilise... Pas en ce moment. Depuis 5-10 ans, on l'utilise quand même beaucoup en France, un peu plus aux États-Unis. Donc on joue avec ça. La base de céréales, elle est un peu plus dure à reconnaître, même si ça va. Par contre, tu vois, il y a des levures qui sont marquées et tu les reconnais direct. Typiquement, les levures de triple belge, elles ont des notes de banane Haribo, un peu un peu banane vieille et banane farineuse. Le fameux banane du Beaujolais nouveau, là, ça te parle ça?
Oui.
Et ben, c'est le même, c'est des esters, en fait, c'est la levure qui laisse des goûts. Et ben, ça, si je goûte une bière et qu'au nez, elle sent la banane, je sais que c'est une triple belge.
Ça te dégoûte pas du truc à la longue? Parce que, comme tout le monde, tu vois, si tu manges ton plat préféré tous les jours, au bout d'un moment, t'as peut-être plus envie.
Bah, non, parce que j'aime bien avoir raison et puis j'aime bien avoir tort aussi. Et puis, comme je te disais, il y a plein de saveurs différentes. Là, on parle de levure de banane dans les triples belges. Parfois, on rajoute de la coriandre et elle est quand même là. Du coup, ça change un peu le relief. Et si tu fais vieillir tes bières, si tu les mets dans des barriques, et encore, je dis si tu, mais les brasseurs, chaque brasseur ou chaque brasseuse peut aller chercher une identité dans sa brasserie, dans ses bières. Donc, en fait, tu auras tout le temps quelque chose qui va te surprendre ou te décevoir. Mais en tout cas, il va se passer forcément quelque chose.
Tu dis que t'aimes bien avoir raison et tu dis que t'aimes bien découvrir des trucs. Du coup, t'as fait des concours de biérologue. Alors, je sais pas comment on dit, parce qu'il y a des concours pour d'œnologue pour le vin.
Ah,
est-ce
ouais.
qu'il y a des concours pour la bière?
Non.
Non.
Et je sais pas si j'aimerais y aller. Il y a pas de concours. En fait, il y a des concours de bière où tu peux avoir. Tu les as déjà vus, tu sais, des macarons étoile, médaille d'or, médaille d'argent. Il y en a plein. Il y en a sûrement beaucoup trop d'ailleurs. Et c'est peut-être c'est pas un truc que j'aime bien. Tu vois, mettre des concours, parce qu'en fait, si tu présentes pas ta bière, tu peux pas gagner. Et il y a plein de brasseries hyper connues en France qui ont jamais eu de médaille et pourtant tout le monde se les arrache. Il n'y a pas de concours d'œnologue, non. Mais ça pourrait être marrant. Mais j'aimerais bien le voir sur le prisme d'un barman avec un truc fun, pas donneur de leçons où tout le monde est bienveillant. Et je suis pas sûr que ça marche trop. Je tiens à te dire que t'es pas mal sur la couleur.
Ah, la couleur.
Beaucoup de gens se trompent sur la couleur.
D'accord. Ah oui, pina colada. C'est marrant, j'aurais dit IPA, tu vois.
T'aurais dit IPA ?
Ouais.
Et ben, c'est une pina colada IPA de la brasserie Azimut qui est à Bordeaux. Et donc là, on pouvait sentir plein de trucs. Et le rond que t'as senti et le maltais, ben, c'est le côté coco, mais le côté que t'as plus lait de coco, tu vois. Si je te mets un côté plutôt coco râpé, et ben, peut-être que tu vas plus jouer fruité, voire même boisé, parce que t'as ce côté un peu terreux, quoi. Ça va être ça l'idée. Pour acide, tu l'as parce que souvent, en fait, tu vas mêler ce côté piquant du bout de la langue et acide. Il y avait un peu d'amertume. Par contre, pour le degré d'alcool.
C'était plus fort.
Le degré d'alcool, on est à 7. Toi, t'as joué entre 3
et 6. Un petit peu dessus.
C'est un peu plus alcooleux.
Là où c'est intéressant, c'est que je crois que si tu m'avais montré la canette de pina colada IPA,
ouais.
Je pense pas que j'aurais voulu goûter.
Ouais.
Parce que j'aurais dit ouais, pina colada et puis.
Est-ce que tu l'as apprécié?
Ouais.
Ok.
Ouais. C'est pour ça que ça m'étonne en fait. Et maintenant que tu m'as parlé de la noix de coco, je la sens. Je l'aurais pas senti avant. On va revenir un petit peu sur l'aspect global dégustation entre guillemets de la bière. Il y a un truc très intéressant que tu as dit. C'est de la bière ou c'est pas de la bière. Et tu vois, moi j'avais noté ça parce que quand je dis à certaines personnes, tiens, j'ai reçu une bière qui a un arôme de banane ou de poivron ou de cacao ou ceci, des fois on me disait, bah, c'est pas de la bière s'il y a ça dedans. La bière, c'est blond. Voilà. C'est quoi une bière du coup?
C'est quatre ingrédients. C'est quatre ingrédients, c'est de l'eau, des céréales, de la levure et des houblons. Alors dans l'ordre de l'eau, des céréales, du houblon et de la levure en termes de volume. Et voilà, ça s'appelle bière. Si tu as mis ça dedans, ça s'appelle bière. Après, il y a des choses que tu peux mettre en plus, des fruits, des légumes, des plantes, des aromates, etc. Mais tant que tu as de l'eau, des céréales, du houblon et de la levure, ben, tu as de la bière. Donc il n'y a pas de notion de degré d'alcool, il n'y a pas de notion de bulle ou pas bulle. Pour ceux qui connaissent les casques, c'est des styles anglo-saxons, c'est des bières sans bulles. Et ouais, c'est de la bière. Il n'y a pas de notion de degré d'alcool. Je disais, une bière sans alcool, en France, c'est un peu bizarre, parce que sans alcool, c'est 1 degré 2, tu vois. Donc en vrai, tu prends 7 pintes de bière sans alcool, tu peux pas conduire, quoi.
À partir de là, donc, tout est possible.
Tout est possible. Pas d'alcool, il n'y a pas de notion de couleur. Okay. Une bière bleue, ça peut exister. Une bière rouge, on connaît. Une bière blonde, cuivrée, tu vois. À partir de là, tout est possible. Les réglementations ne sont pas les mêmes selon les pays, mais en France, il faut une fermentation de céréales, donc on va chercher du sucre dans la céréale, qui soit 50% maltée, donc ça c'est un peu plus technique, mais en gros qu'on a fait au moins 50% de notre base de céréales a été maltée, et avec du houblon. Si tu mets pas de houblon, ça peut ressembler à de la bière, mais ça s'appellera pas bière. T'as pas le droit de mettre bière sur ton étiquette. Si tu mets du houblon, eh ben ça s'appelle bière.
Le fait qu'on se pose encore ce genre de questions, ça prouve qu'on n'est peut-être pas un pays où culturellement la bière est très ancrée.
T'as tout compris. T'as tout compris. Elle n'est pas ancrée parce qu'on ne l'a pas dans les restaurants, ou peu. Elle n'est pas ancrée parce que quand tu fais une formation dans l'hôtellerie-restauration pour être serveur, pour être barman, pour être sommelier, chef de rang, etc., il n'y a aucune formation dans les métiers de la bouche sur la bière. Et parce que, clairement, maintenant, on en a beaucoup, mais pendant très longtemps, on n'a pas eu beaucoup de scène brassicole. J'entends scène brassicole en termes général, de brasseries, de houblonnières, de malteries, de labos pour les levures, etc. Et aujourd'hui, on en a plein, des brasseries. Et ça se remet en route, c'est pour ça que t'es là, j'imagine. Mais en fait, on a tout à faire, et comme je disais, c'est un avantage et un inconvénient. Les Canadiens, par exemple, n'ont pas une grande histoire tout court. Et du coup, ils n'ont pas une grande histoire brassicole, et ils s'en sortent très bien. Très inspirés par les États-Unis, très inspirés par les Belges aussi. Et en gros, ils font leur sauce, et ça marche très bien.
Quel est le truc le plus étrange que t'aies bu ?
J'ai
bu... Qu'il soit une bière, du coup.
Une bière au cassoulet de la brasserie Iron à Toulouse.
Ça donne quoi en bouche ?
C'est une bière qui s'est pris d'amour pour un cassoulet et ils ont eu un enfant.
Il y a quoi dedans ?
Il y a de l'eau, des céréales et du houblon et des levures et du cassoulet.
Donc il y a... Alors attends, il y a quoi dedans ?
Ben, du cassoulet, c'est filtré, hein. Il n'y a pas du cassoulet qui flotte dans ton verre, mais...
Ils ont filtré un cassoulet.
Ouais, ils ont mis un cassoulet dedans. Alors, je ne sais pas exactement comment ils ont fait.
D'accord.
Mais c'est le truc le plus what the fuck que j'ai bu, ouais.
Et c'est bon ?
C'est bon ? Ouais. Ouais, ouais. C'est étrange. En fait, c'est étrange. Moi, souvent, ce genre de truc, je les cite. Je ne les fais pas forcément goûter sur mes ateliers. Mais j'aime bien faire goûter des trucs très, très exotiques. Parce que... Je sais que les gens vont pas forcément aimer, mais justement pour que ça marque et dire ça, ça existe. Et si ça existe, ça veut pas dire que tu vas te reprendre des pintes en after work, hein. Mais au moins tu sais que quand tu boiras ta pinte de blonde, et là je fais des guillemets avec mes doigts, et ben tu sais que quand même il y a un autre truc qui existe à côté, quoi. Et ça s'appelle quand même bière. Et petit à petit, ta vision de ce que c'est la bière, elle va s'agrandir, et puis tu vas pouvoir intégrer des choses. Mais truc plus ouais, j'ai bu. Eux, ils ont fait par exemple une bière au bonbon schtroumpf. Ils ont fait saumon Annette. Pour les plus accrochés qui écoutent le podcast, c'est la brasserie Iron à Toulouse. C'est assez marrant de voir ce qu'ils peuvent faire. Ouais.
À l'inverse, et je me demande si la question tu vas pas la trouver encore plus difficile. Quelle est la meilleure bière que tu aies bu ? Je me doute qu'il y en a plein que tu dois adorer.
La meilleure bière que j'ai bu. Enfin, je pourrais pas te répondre. J'aime beaucoup l'Orval. Qui est un truc que... En fait, j'aime bien cette bière parce que je trouve qu'elle change à chaque fois. Et en vrai, c'est moi qui change. Mais elle change à chaque fois. Elle n'est pas chère. Tu la trouves partout. Tu peux la faire vieillir facilement si tu n'arrives à pas la boire. Et j'aime beaucoup ça. C'est vraiment des tendances. Des tendances parce que les brasseurs font des trucs. Parce que moi, j'aime bien les trucs. En hiver, j'aime bien boire des bières très réconfortantes. C'est un mot compliqué pour dire des bières fortes en alcool. Et en été, un peu plus léger, voire des bières acidulées. J'aime bien des brasseries, en fait. Il y a une brasserie que j'aime beaucoup, c'est Northern Monk, qui est à Manchester, je crois, si je ne me plante pas. Et l'autre, qui est un petit peu son alter ego américain, qui est Other Half. Et ils ont fait une bière ensemble et que je trouve assez ouf. Ça s'appelle la Patrons Project et elles sont ouf, il y a des étiquettes à collectionner, donc évidemment c'est trop bien.
Je sens qu'en effet chez les passionnés de bière, il y a souvent cet effet d'avoir sa brasserie comme on a son équipe de foot un peu des fois ou plusieurs.
Ouais, et puis parfois elle te déçoit parce que elle a sorti une nouvelle pépite et qui est pas du tout à la hauteur du contrat. Ouais, c'est vrai, carrément. Ouais. Et puis ça se bataille un peu, tu vois, pour savoir qui est le meilleur, c'est marrant.
Pour revenir un petit peu sur l'éducation globale, pour nos auditeurs qui écoutent, très simple et très compliqué à la fois, encore une fois, c'est quoi une bonne bière ?
C'est une bière que tu vas boire deux fois. ou tu vas la recommander. Et ça, tu vois, c'est carrément à l'inverse de toute la culture un peu geek, parce qu'on a un peu des geeks dans la bière, on en a même pas mal, qui sont plus là pour aller chercher... boivent jamais la même bière. Je vais reprendre une bière. Qu'est-ce que t'as comme nouveauté? Bah, moi, j'aime bien se dire que t'aimes bien... En plus, tu récompenses. Tu te récompenses parce que tu l'as découverte. Tu récompenses le mec qui l'a faite parce que tu l'achètes deux fois. Ouais, une bonne bière, c'est une bière que tu la recommandes, quoi. T'as plu, tu la recommandes.
Mon caviste a une... pas un dicton, mais un conseil en général, c'est de prendre 50% de nouveautés et 50% de trucs que t'aimes bien.
Ouais.
Quand t'y vas.
Carrément. J'aime bien cette idée-là. Ça te permet de pas être déçu, trop déçu. Bah ouais, ouais, et puis... Je vais pas te cacher que ce côté un peu geek là, ça me saoule un peu. Ma copine est caviste et elle en voit passer un peu. Alors je vais peut-être pas me faire des amis, hein. Mais je trouve ça con de dire les bières belges c'est vraiment pour les tocards, alors qu'en vrai tout le monde a commencé plus ou moins par là et que c'est très bon. C'est juste que bah les styles belges c'est style plutôt levuré, plutôt sucré, et donc c'est pas forcément la mode. Et puis en fait on y reviendra sûrement. Donc ouais, 50% de confort et 50% d'exploration, ouais, j'aime bien cette idée.
Alors, il faut trouver un fruit alors qu'il n'y a pas de fruit dedans.
Il faut trouver un fruit alors qu'il n'y a pas de fruit dedans.
Ouais, j'ai trouvé le harlequin.
Ouais, ça sent carrément le harlequin, c'est un délire. C'est
okay. J'étais informé, je sens un truc que j'arrive pas à faire le lien. Mais
vous avez un peu trouvé le truc que je vous demande de chercher.
Le fruit, c'est le harlequin.
Le fruit, c'est pas le harlequin, mais en tout cas, on n'est pas loin. Mais oui, il y a ce côté bonbon.
Complètement.
Bonbon de banane Haribo un peu.
Que j'ai du mal à retrouver dans le goût perso.
Dans le goût, il n'est pas trop.
Ouais, ouais, genre entre l'odorat et le goût.
Banane Haribo, ouais. Ouais,
ouais. Mais harlequin, ça marche aussi. Ouais, bah, ça, c'est le Beaujolais nouveau, les potes.
Quoi?
En gros, la levure, quand elle travaille, elle mange les sucres, elle les transforme en CO2 en alcool, mais elle libère des esters, et les esters, ça donne du goût. Dans une New England IPA, tu demandes des esters fruités. Ça tombe bien, il y a des houblons très fruités qui vont avec. Là, les triples belges, et c'est ce qu'on boit.
C'est une triple
en tout cas. Et ben, il y a des esters que la levure, elle laisse. Et souvent, ça donne soit des notes de... c'est pas très ragoûtant, hein, mais de poire mûre, banane mûre un peu farineuse, bonbon Haribo, bonbon banane. Donc le côté un peu gras, pas forcément vraiment tu croques dans une banane, mais ce côté un peu levure. Ouais. Et ça, tu l'auras dans quasiment pas toutes les triples belges, mais en tout cas c'est vraiment une signature. Parfois il y a de la coriandre, j'en sais bien.
Avant de commencer par les bières belges, souvent ils commencent par des choses qui sont plus dans des rayons de supermarché. Si je te ramène une, bon, on peut te donner des marques, on est dans un podcast, on fait ce qu'on veut. Si je te ramène une Crow ou une Heineken en soirée, tu fais quelle tête?
Il est quelle heure?
On est en soirée. Tu vas chez des potes pour un match de foot.
Je prends une Heineken.
D'accord.
C'est sûr. Et je dis rien parce que peut-être c'est le week-end et je bosse pas le week-end. Mais non, je fais chier les gens. Ça m'est déjà arrivé, enfin ça m'arrive en fait de faire des soirées, des déménagements, tu vois. Et non, et puis en fait, je me fais tout le temps le rapport. En fait, en étant expert, c'est peut-être la première fois de ma vie que je suis expert vraiment dans un domaine. Et je me dis, il y a des gens qui sont experts dans leur domaine, mais ils doivent se foutre de moi, quoi. Là, sur les ateliers de brassage, l'autre jour, j'ai un mec qui était expert en balance, parce qu'on a des balances pour peser les matières premières, et il m'a dit, tes balances, c'est nul, quoi. Mais lui, il est expert en balance. Mais je sais pas, moi, je m'en fiche. Mais du coup, je l'ai écouté parce que j'ai compris un truc. Donc, j'ai pas trop envie d'embêter les gens avec ça. S'il y a des curieux qui veulent en parler, il n'y a pas de problème. Et je boirais volontiers une Heineken, pas de souci.
Mais pour les curieux, c'est quoi qui sépare, du coup, ces bières-là d'une bière artisanale, maintenant, qui vient d'une des microbrasseries nombreuses qu'il y a en France?
J'aime bien aussi dire qu'il y a ce côté proximité. Parce que potentiellement, une bière artisanale, t'es allé la chercher. Ou alors ton caviste te l'a conseillé, mais il y a un côté relationnel. Je suis pas sûr que tu vois Monsieur Heineken Monsieur Heineken, il s'appelle pas Heineken, mais Monsieur Carlsberg. Ben, je suis pas sûr que ce soit lui qui te serve. Il y a ce côté proximité. Il y a la recherche du goût. Clairement, on va pas se le cacher. Hein. C'est pas de la bière. J'aime pas la bière. C'est parce qu'en fait, on s'entend que une bière, c'est une blonde à 5 degrés et pas trop de goût. L'idée de pas trop de goût, c'est pour plaire à plein de monde. Si on boit, si là une quenne, demain tu mets du melon ou des trucs un peu clivants comme de la coriandre, et ben, ils ont pas envie de faire ça. C'est parce que il faut vendre à beaucoup de gens en fait. Et si tu fais un truc trop marqué, ça marchera pas. Aujourd'hui, tu vas à une brasserie artisanale, il y a cette notion de volonté de faire un produit singulier. Donc peut-être ça te plaira pas. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui il y a plus de 2000 brasseries en France. Donc si ça te plaît pas, tu vas voir la brasserie d'à côté. Et en vrai, dans les brasseries, on s'entend plutôt pas mal. Donc il n'y a pas de guéguerre entre nous, entre guillemets. L'ogre, c'est l'industriel, donc on va pas se faire la guerre entre nous. Donc si t'as une... on va reprendre les Belges. Si t'as une brasserie qui fait plutôt des styles belges et que t'aimes pas ça, eh ben, tu vas chez une brasserie qui fait plutôt des styles américains sur le houblon. Mmh. Et inversement. Et tu vas t'y retrouver et très bien. Ça marchera toujours.
En dehors de goûter, est-ce qu'il y a des petites choses? Parce que tu le disais, il y a plus de 2000 brasseries maintenant en France. On a l'impression d'en voir beaucoup, dans beaucoup de magasins locaux notamment, etc. Ouais. Comment tu peux savoir, à l'étiquette ou je sais pas comment, si ça va être bon ou pas, ou si c'est de qualité en tout cas ou pas, si c'est bien fait?
C'est compliqué. Mmh. Et c'est pour ça que tu vas chez ton caviste. Après, est-ce que tu as le temps d'aller chez le fromager, le primeur, le caviste? Quand c'est de l'alcool, tu fais un peu plus d'efforts. Mais c'est ton caviste qui te le dira, parce que sur l'étiquette, tout n'est pas marqué. Même si de plus en plus ça joue la transparence. Avant, clairement, c'était marqué ingrédients, eau, céréales, houblon, levure. Donc tout le monde a compris qu'en fait c'est comme ça qu'on fait la bière. Donc si tu marques bière, c'est pareil. Donc c'est pour remplir un peu le vide que tu peux avoir. Aujourd'hui, tu vas quand même avoir, si vous voyez une étiquette qui a beaucoup de choses écrites dessus et vous sentez que c'est pertinent, c'est potentiellement déjà rien que dans l'intention, même si potentiellement la bière elle est pas folle, mais rien que dans l'intention, on a essayé de jouer la transparence. T'as déjà lu des étiquettes de vin où c'est marqué tous, mais t'as aucune info, tu vois. Ce vin authentique et généreux, est-ce que c'est salé, sucré, amer? En fait, t'as plein de trucs de marqués, mais ça te donne pas des goûts marqués, quoi. Je veux dire, tout le monde n'est pas œnologue, zytologue ou je sais pas quoi. Donc ça, et moi je conseille à tout le monde d'aller chez un caviste, c'est là où tu seras le mieux. Le caviste, il va pouvoir dire si la bière elle est fraîche. Potentiellement, il va te donner des conseils sur les températures de service aussi. Petit tips, le degré d'alcool, c'est la température de service. C'est pas toujours valable, mais ça aide. Ça permet de bien appréhender. Parce que parfois, il y a des bières, tu vas pas bien les goûter, en fait, tu les as bu trop fraîches. Des accords, ton caviste, il va t'aider là-dessus. Et comme tu disais, il va te dire, quand tu reviendras, j'aurai un autre truc à te proposer qui va sortir bientôt. Caviste.
Un auditeur qui voudrait commencer à peaufiner sa connaissance de la bière, sortir un petit peu des grandes marques,
ouais.
Quel conseil tu lui donnerais pour terminer cette émission?
Eh ben, il va chez son brasseur le plus proche, ou il va chez son caviste le plus proche. S'il habite à Nantes, il vient faire un atelier avec moi. Moi, j'aime bien cette idée de tout le temps rester ouvert d'esprit. Comme tu me posais la question, est-ce qu'il y a des trucs que j'aime pas? Oui, mais en fait, tu goûtes quand même de se faire plaisir tout le temps, en fait. C'est-à-dire que des trucs que t'aimes bien, faut pas les oublier que tu les aimes bien. Et même, faut les regoûter parce que ton palais évolue. J'en parlais avec un de mes collègues hier, on parlait de la punk IPL chez Brewdog, qui est arrivée il y a très longtemps, et on se disait, elle est plus pareille. Est-ce qu'elle est plus pareille parce que vraiment elle est plus pareille? Ou est-ce que c'est plus pareille parce qu'on s'est bouffé des jus de houblon hyper amers et on a évolué, voire saturé? On n'a pas su répondre à la question. Donc, reboire des trucs qu'on aime bien, se faire plaisir et acheter des bouquins. Franchement, c'est bien. Il y a des super bons bouquins. Il y a Elisabeth Pierre, je l'ai cité tout à l'heure. Il y a Guirec Aubert aussi qui fait des bons bouquins là-dessus. Et c'est des bouquins de démocratisation du produit. Et ça, c'est bien. Et puis, brasser sa bière, ça peut aider aussi. Là, c'est plus pour comprendre comment c'est fait. Mais ça aide aussi à appréhender le goût.
Eh bien, merci beaucoup, Ben.
Merci, Alain.
Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même, Alain Mattei. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast habituelles. N'oubliez pas que les précédents épisodes sont toujours disponibles. Pour boucler cet épisode, un grand merci à Ben, mais aussi à la brasserie Aérofab et au Bubar pour leur accueil. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, les comptes Twitter, Instagram et Facebook ont tous le même nom, c'est @OccupationPod. À très bientôt pour un nouveau reportage.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.